Eh bien, nous sommes, comme vous le savez, donc à la fin de cette convention missionnaire, et la question qui se pose à chacun, c'est le chapitre suivant. Et moi, j'ai regardé votre dépliant. Donc, quel sera le prochain épisode dans l'histoire missionnaire? Connaissez-vous votre rôle? Y a-t-il une suite dans vos idées, hein? Dans nos idées, pardon. Et alors, ce matin, on m'a donné le sujet l'Église de demain. Donc, spécial France. Et donc, la question qui se pose à nous, c'est quelle sera l'Église de demain? Alors là, mon cher Vincent, tu m'as donné vraiment une tâche prophétique, hein? Alors, quelle sera l'Église de demain? Alors, moi, j'ai lu avec la lettre qui est sur le dépliant, l'apôtre Paul encourageait souvent les églises à continuer ce qu'ils faisaient déjà et à marcher de progrès en progrès. Ensemble, nous voulons donner suite à nos projets dans lesquels nous sommes déjà investis, tout en élargissant notre vision, en améliorant nos méthodes et en attendant de grandes choses de la part de Dieu. Quel sera le chapitre suivant dans la grande histoire qu'il écrit dans nos vies? C'est une bonne question, hein? C'est une bonne question. Et donc, en posant les questions, l'Église de demain, on est en train de dire qu'il y a certaines choses qui changent. Alors, ce n'est pas le message. Parce que le message que nous voulons annoncer, Jésus-Christ, mort, ressuscité, le Christ qui peut transformer les vies, ça ne change pas. Et ça n'a jamais changé. Mais il y a des choses qui changent. Apparemment, les bâtiments changent un peu. Les beaux bâtiments d'autrefois, c'est Notre-Dame, hein. Apparemment, vous n'avez pas suivi la même chose. Les bâtiments changent. Le message ne change pas, mais les bâtiments changent. Moi, je m'appelle dans le bon vieux temps, lorsque j'étais jeune, on n'avait pas d'orchestre comme ça. On chantait a cappella. Et c'est comme ça qu'il fallait chanter. Mais heureusement que les choses ont changé, hein. Parce que, à quoi vous savez pas, la musique a changé. Et aussi, si le message n'a pas changé, la façon de communiquer l'évangile a changé. Alors, dans le bon vieux temps, moi j'ai commencé mon ministère, et ça c'est votre serviteur, hein. J'avais des cheveux, une grande beauté, voilà. Alors, on tapait aux portes et on parlait aux gens de Jésus. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'on frappait aux portes, les gens écoutaient. Maintenant, vous commencez à taper aux portes, que font les gens? Voilà, c'est ça. Oh! Et là, vous voyez votre serviteur encore au marché, dans le Vaucluse, en train de dire, chers amis, vous avez besoin de Jésus-Christ. Mais vous allez au marché à Toulouse et vous chantez, et vous parlez comme ça, est-ce que les gens vous écoutent? Donc, la question qui se pose. Le message reste toujours pareil. Mais quelle sera l'Église de demain? Alors là, je m'avance, hein. Et vous allez voir, alors Sam, si je marche sur ton ordinateur, c'est pas grave, hein. Et je regarde qu'il n'est pas en train de regarder le visage, il est en train de regarder mes pieds. Hein. Donc... et, alors voilà ce que moi je crois de tout mon cœur, c'est que l'Église du 21e siècle sera relationnelle ou elle ne le sera pas. Et ça, c'est ce que j'aimerais développer avec vous ce matin. Et pour cela, je vais lancer un petit sondage fait par la Fondation de France au sujet de la solitude. Et là, vous remarquez quelque chose d'absolument remarquable. On dit que les Français, sans aucun réseau relationnel, il y a maintenant, enfin, c'était en 2013, hein, 12%. Donc, ça veut dire, si c'est vrai, on n'a aucune raison de penser, il y a une dizaine de personnes ici qui n'ont pas de réseau relationnel. Et les Français qui ont un sentiment de solitude, 20%. Donc, si tu as un sentiment de solitude, c'est pas surprenant. Tu fais partie de beaucoup de personnes. Et ce qui est encore pire, les Français avec des relations familiales faibles ou inexistantes, on a monté jusqu'à 39%. C'est fou ça. Et si on ajoute, alors là, voilà ce que dit Odile de Laurence, la solitude évolue comme une tache d'huile qui s'étend et s'infiltre dans toutes les couches de la société. C'est comme une montée des eaux, quelque chose d'inéluctable. C'est faux ça, hein? C'est faux. Et son collègue, Marthe Gruer, dit, même si la famille reste la première valeur des Français, en pratique, la fréquence des relations chute. La multiplication des ruptures conjugales explique aussi que les relations se distendent. Les séparations sont un élément déclencheur qui peut entraîner la disparition de pans entiers de certains réseaux familiaux ou amicaux. Et ça fait réfléchir, hein? Ça fait réfléchir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Moi, j'ai 707 amis. Non, je pense, quand j'en ai ajouté deux, je pense que j'ai 709 amis Facebook. C'est fou qu'on parle comme ça, hein? Et donc, on tient aux relations virtuelles. Et la communication par Facebook, par Instagram, par Twitter. Des amis? Est-ce que tu as des amis, toi? Parce que moi, j'ai remarqué que le grand problème, c'est que de plus en plus, avec les années, les gens viennent dans l'église, et c'est peut-être ton cas ce matin d'ailleurs, que tu es venu et tu viens de, avec ce que nous avons vu, un passé chargé, relationnel fragilisé, en difficulté, et tu as soif de véritables relations. Et peut-être c'est pour ça que tu es venu, et tu as bu un café, et tu as ressenti que c'était bien. Mais le problème, c'est que tu as envie de relations, mais tu ne sais pas établir des relations. Et donc, nous avons des gens dans nos églises qui sont en quête de relations, mais à cause de ce passé qui n'est pas simple, qui est difficile, on n'a jamais appris à établir des relations. Et donc, on est rempli de beaucoup de personnes blessées et en difficulté. L'église du 20e siècle, 21e siècle, sera relationnelle ou elle ne sera pas. Mais il faut que je vous parle de Paco, hein. Paco, donc, comme vous pouvez imaginer, était en Espagne et il avait une mauvaise relation avec son père. Et donc, il s'est éloigné de la famille. Mais avec le temps, papa voulait régler sa relation avec son fils. Et donc, il a trouvé un moyen un peu bizarre. Il a mis une publicité dans un des grands journaux en Espagne. Et il dit, Paco, tout est pardonné. Rendez-vous aux escaliers devant le journal, mercredi à 2h. 14h, je veux dire. Alors, le papa, avec un certain tremblement, parce que vous imaginez, hein, se rend devant le siège du journal à 14h. Il y avait 500 Paco. L'église du 21e siècle sera relationnelle ou elle ne sera pas. Alors, si ce que je dis est vrai, et je le crois de tout mon cœur, Cela veut dire, les amis, que nous devons réfléchir autrement notre façon de vivre l'Église. Et de vivre dans l'Église du bon vieux temps sera une grosse erreur face aux besoins de la société actuelle. Mais là, je vous ai parlé de la société. Est-ce que ça correspond à ce que dit la Bible? Est-ce que la Bible met autant d'accent sur le relationnel que je viens de dire? Parce que dans le fond, que dit l'Écriture, c'est ce qui est important pour nous. Alors, si vous vous posez la question, quel est le verset biblique le plus connu dans nos milieux évangéliques? On répondrait Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le qu'il a donné son unique pour afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait
combien
de messages d'évangélisation est-ce que nous avons entendu à partir de ce texte, c'est l'ADN du mouvement évangélique en France et dans le monde. Si quiconque met sa confiance, toi mon frère, toi ta soeur, si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, maintenant, toi tu peux connaître la vie éternelle, tu peux connaître une relation nouvelle avec Jésus-Christ, toi aujourd'hui tu peux avoir la vie éternelle. On a prêché ça et on avait raison. Mais est-ce que vous avez remarqué l'accent de notre message? Toi, tu peux avoir une relation, toi, avec Dieu. Et en fait, le message de la Bible est devenu moi et ma relation à moi avec Dieu pour que moi, je puisse avoir la vie éternelle. Est-ce que c'est ça le message de la Bible? Je vous montre deux versets. Je vous montre deux versets et vous allez me dire ce que vous pensez. Alors voilà. Alors là, c'est Jésus qui parle, donc c'est pas moi bien sûr, et c'est pas la Fondation de France non plus. Alors à ceci dit Jésus, tous c'est qui? C'est les gens dans l'Église? Non. C'est les gens de partout? Des croyants? Des non-croyants? Autrement dit, les gens de Toulouse. On est d'accord? Ok, tous. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Qui dit ça? C'est Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors, il est en train de dire, alors, vous, venez, les gens de Toulouse, donc dans la rue, de partout, venez ici, dans l'église, dans ce nouveau bâtiment, vous pouvez admirer les choses. Mais, les amis, moi j'aimerais, c'est dit Jésus, j'aimerais que vous puissiez regarder ces gens-là ici, les chrétiens de l'église, et vous pouvez être sûr qu'ils sont vraiment des disciples de Jésus-Christ, comment? Comment? Ah, donc, s'il n'y a pas de véritable amour, c'est Jésus qui parle, s'il n'y a pas de véritable amour pour les uns pour les autres, vous avez le droit de dire quoi? Ah! C'est embêtant, ça. C'est même plus qu'embêtant. Vous savez qu'il y a certains versets dans la Bible que moi j'aimerais faire slip. Et le verset suivant, c'est encore plus embêtant. Parce que Jésus fait la même chose quelques chapitres plus tard. Et là, il y a la grande prière qu'il est en train de prier à son Père. Et il dit, je te demande, donc c'est Jésus qui parle au Père, je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc le monde. Jean Toulouse. Ok? Alors là, il est en train de faire la même chose. Il dit, allez. Alors, on fait une invitation à tout le monde Toulouse de venir ce dimanche matin ici dans ce nouveau bâtiment. Et puis, j'aimerais que vous regardiez la qualité relationnelle des gens dans l'église. Et s'ils ont une qualité relationnelle, et le niveau c'est assez haut, hein, donc le même genre de relation que le père avec le fils, en ce cas-là, vous avez le droit de croire que le père a envoyé le fils. Waouh! Il est en train de dire que l'authenticité de la foi se démontre dans notre qualité relationnelle. Ça veut dire que le relationnel, ce n'est pas une petite chose du tout, hein. Ça veut dire que c'est un élément absolument essentiel. Mais
je ne prends pas seulement
deux versets de la Bible, je vous amène. Et je ne sais pas donc combien de réunions d'église ou réunions de prière j'ai mis ces versets. Dès lors, il s'agit. Alors, voilà, on va faire une petite interrogation orale. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça, mais en tout cas, j'ai l'honneur en ce cas-là. Alors, vous regardez, quel est l'élément qui ressort dans ces versets? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, je suis très très vieux et donc j'ai besoin de... Parlez un peu plus fort.
Communion.
Ensemble.
Partage.
Comme un accord. Mais c'est fou, hein? Donc, ce qu'on est en train de lire, c'est ce que nous venons de voir avec Jésus, que lorsque le Saint-Esprit vient, les gens se tournent vers Jésus-Christ, et si et quand les gens se tournent vers Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un changement de vie, il y a une vie communautaire, et ça se met en route. Il y a un véritable relationnel. Voilà ce que nous dit les Écritures. Alors, ça veut dire quoi? Alors, pour certains d'entre vous, et peut-être pour toi ce matin, hein, ça va complètement changer notre optique de l'Église. Parce que pour certaines personnes, l'Église, c'est réunion, parce qu'on vient à l'Église. C'est ce que disent les gens, hein? On vient à l'Église. Vous êtes venu à l'église ce matin. Et parfois, et moi j'ai commencé à ne jamais faire ça. Je dis, parfois les gens disent, Nathan, heureusement il n'a pas fait, parce qu'autrement j'aurais été très gêné. Et on dit, soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Mais c'est pas la maison du Seigneur ça. Ce n'est qu'un outil. Là c'est la maison du Seigneur. Parce que l'église c'est nous. C'est toi et moi, hein. On devrait penser aux relations. Quand on pense à l'Église, on pense très souvent aux réunions. On devrait penser aux relations. Ou pour le dire autrement, l'Église n'est pas un lieu où tu vas, mais c'est une famille à laquelle tu appartiens. Alors, ceci dit, quelles sont les implications? Ce qui est formidable dans ce nouveau bâtiment, il n'y a pas de pendule. Donc, j'ai aucune idée combien de temps j'ai. c'est merveilleux, hein? Tu as fait exprès, hein? Ça va, je peux continuer? Ouais. Alors, moi, je veux vous proposer, si l'Église de demain sera relationnelle et doit être relationnelle, et si ça veut dire que selon les besoins de société et selon les exigences de l'écriture, que notre Église doit être relationnelle, il y a trois implications. Et le premier, qui est probablement le plus difficile, ça veut dire que moi, et quand je dis moi, je dis toi, que moi, je dois apprendre à établir des relations, des véritables relations. Pas simple. Parce que, il y a chez certaines personnes, et peut-être quelqu'un ici, qui pense, voilà, maintenant je deviens chrétien, et donc, Dieu entre dans ma vie, ce qui est vrai, et Dieu me change, donc c'est vrai, et donc, À partir de maintenant, ça va, je vais aimer les autres. Ce n'est pas ce que pensait l'apôtre Paul. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire efforcer? Ça veut dire que ça vient tout seul? Non. Ça veut dire quoi? Que tu vas faire un effort? Ah ah. Donc, et à mon avis, l'avenir de l'Église ici et l'avenir des Églises en France dépendront de notre façon d'apprendre de nouvelles habitudes au niveau du relationnel. Et c'est pas simple. Ça veut dire que quand on dit faire un effort, ça veut dire que efforcez-vous. Alors, comment tu fais pour pardonner les autres? Est-ce que tu attends que le Saint-Esprit me touche et maintenant je pardonne? Ou est-ce que tu vas t'efforcer de pardonner les autres? Mais comment est-ce que j'ai fait ça? Mais ça peut une autre fois. Et comment est-ce que tu vas apprendre à aimer les autres? Les gens, quand tu es en déficit relationnel, toi, et tu as vécu des blessures et des échecs, et tu ne sais pas comment le faire, mais là, l'Église en dépend. Hein. Alors, il y a... Moi, j'aurais envie de passer encore 3 heures là-dessus. Peut-être c'est un moyen d'inviter moi pour nous souvent. C'est moi. Oui. Ça veut dire qu'on sera obligé de rectifier des erreurs dans notre comportement. Et je dis que nous sommes tous en déficit relationnel. Moi j'ai le souvenir d'une fille qui est venue vers moi. Et c'est souvent les filles qui viennent vers les gars parce que les gars, sur le plan relationnel, sont plutôt nuls par rapport aux femmes. Et nous, les hommes, sur le plan relationnel, nous avons beaucoup de choses à apprendre. Et parfois, il faut écouter les femmes plutôt qu'expliquer aux femmes. Mais voilà. Et donc, elle est venue vers moi et dit, « Pourquoi tu m'aimes pas ?» Je dis, « Pardon ?» Elle dit, « Pourquoi tu m'aimes pas ?» Oh, non, je pense qu'elle dit, « Qu'est-ce que tu as contre moi ?» Bon, ça revient même. « Qu'est-ce que tu as contre moi ?» Alors, je dis, rien. Et, alors, j'ai eu l'intelligence, au moins, de dire, « Mais pourquoi tu dis ça ?» Au lieu de sortir le Kalachnikov et... je dis, « Mais pourquoi tu dis ça ?» Mais, parce que tu passes devant moi et tu me vois même pas. Ah, je dis, « Ah bon ?» Mais je t'ai même pas vu. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas la seule qui m'a dit ça. Et moi, je me rends compte qu'un dimanche matin, et je vois pas les gens. Et les gens pensent que je les méprise. Alors c'est faux. Mais j'ai dû apprendre. Hein. Et avec ma délicatesse légendaire, j'ai baissé des gens. Hein. Et même dimanche dernier, à Ponto Combo, qui n'est pas en Afrique, c'est en France, en région parisienne, à Ponto Combo, j'étais en train de parler avec quelqu'un, comme ça, et puis il y avait quelqu'un à côté, mais je n'ai même pas vu. Et puis je dis bonjour, il a embrassé, et puis je dis j'allais partir avec quelqu'un, et qu'est-ce qu'elle a ressenti, elle? Elle a ressenti que je ne l'aimais pas. C'est fou comment on peut être complètement... Et moi j'ai dû apprendre. Moi, je dois apprendre vraiment à changer mon comportement. Efforcez-vous, c'est pas simple. Et j'ai appris aussi la différence entre le fond et la forme. Alors, vous imaginez, on était à l'église et on avait beaucoup prié pour cette dame. Alors, elle est venue le dimanche matin. Elle était là. Et ça tombait à pic parce que j'avais un message qui était exactement pour elle. Et vraiment, Seigneur, merci beaucoup. Et je prêchais avec tout mon cœur et tout mon enthousiasme. Et à la fin du culte, j'étais là à la porte. Et elle est venue et dit, voilà. J'ai dit,
Le message est-il pour toi ce matin?
J'ai parlé de délicatesse légendaire. Elle n'est plus jamais revenue à l'église. J'avais raison. Sur le fond. Parce que le message est-il pour elle? J'en suis convaincu. Mais par une maladresse lamentable de ma part, vous savez qu'il y a certaines personnes qui disent « Alors moi, je suis franc, et moi je dis comme je le pense. » Et souvent ces personnes-là sont drôlement cassantes, et ils disent comme ça parce qu'ils n'ont jamais appris à développer des relations. Et envelopper les choses. Nous avons besoin d'apprendre à faire les choses. Hein. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple. Mais si l'église de Toulouse, en entrant dans le nouveau bâtiment, n'a pas une révolution relationnelle où on apprend à changer notre façon de faire, malgré nos échecs, malgré nos blessures, malgré tout ce que nous avons vécu avant, on ne sera pas l'église. Ouais, dernière chose, il faut que je le dise quand même. Moi j'ai souvent remarqué que, étant donné que quand on vient dans l'église, on a de grandes attentes. Hein. J'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré des gens qui sont apparemment chaleureux, qui m'ont fait un café, qui m'ont salué, mais m'ont embrassé, m'ont demandé comment je m'appelle, et puis, moi je fais la grande découverte. Alors c'est uniquement à Pontecombo, Vincent, ne t'inquiète pas, mais on découvre à Pontecombo que les chrétiens ne sont pas parfaits. C'est incroyable ça, hein? Et j'ai entendu cette phrase à 1000 reprises. Si ça venait de la part d'un non-chrétien, j'accepterais. Mais de la part d'un chrétien, c'est insupportable. C'est vrai, mais on est tous en mode apprentissage. Et ma plaidoirie, c'est fais grâce. Fais grâce avec moi, je suis un pauvre pécheur et j'ai besoin de Jésus. Fais grâce avec les frères et les sœurs qui sont également en mode apprentissage et en mode pardon aussi. Moi, je pourrais parler aussi de résoudre les conflits, mais je pense que je vais zapper. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que la vie communautaire
ça veut dire que
n'est pas une option pour un chrétien.
La vie chrétienne est
relationnelle.
Ça veut dire que je suis croyant, mais pas pratiquant, est un non-sens biblique. Et pratiquant, c'est pas m'asseoir sur la chaise, écouter ce que dit le pasteur, saluer à la main, dire merci pasteur, c'était bien. Non, non. Ça veut dire que être participant d'une église, c'est une vie communautaire. Ça veut dire qu'il faut que je fasse face à mes blessures, à mes difficultés, et que je prenne une décision. Que je prenne une décision. Mais pour ceux d'entre nous qui ont des blessures, on est en déficit de confiance, hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'était jamais blessé par quelqu'un? Ouf! Donc on est tous ensemble, hein? Donc, et quand on est blessé, est-ce qu'il y a une perte de confiance? Ben oui. Ça prend combien de temps pour bâtir des relations de confiance? Je sais combien de temps ça prend pour briser les relations, mais ça prend combien de temps pour bâtir des relations de confiance? On peut le faire dans une semaine? On peut le faire dans un mois? Là, elle voit dans les visages que certains sont en train de revivre certaines choses dans leur tête. Hein. Donc, ça prend du temps. Et donc, toi, tu dois bâtir des relations de confiance. Tu dois accepter que pour d'autres personnes d'avoir confiance en toi, ça prend du temps. Et s'ils n'arrivent pas à se livrer dans une minute, ben c'est normal, hein. C'est plutôt normal. Et c'est pour ça que moi je suis vraiment, vraiment content de ce que vous avez instauré ici. Alors, parfois, moi je rappelle aux gens, et vous avez pris délibérément, le contraire. Parfois, moi je rappelle aux gens, le culte ne commence pas au moment où on chante le premier chant. Le culte commence avec ce que moi j'ai appelé le pré-culte. Alors vous avez fait magistralement, vous avez dit que le culte commence à 10 heures. Et qu'est-ce que c'est le culte pendant 10 heures? C'est le moment où on se cause, c'est le moment où on parle, c'est le moment où on boit le café ensemble. Ça c'est le culte, parce que une église du 21e siècle sera relationnelle ou elle ne sera pas. Et le relationnel, ça fait partie. Eh bien, pour certains d'entre nous, on n'a jamais appris à faire ça. Et vous aimerez mieux zapper ce moment-là et venir au moment de premier chant. Et c'est là où tu as besoin de dire non. La vie communautaire n'est pas une option. Je viens et je vais apprendre avec mes difficultés. Ça va prendre des semaines et des semaines. Mais moi, je suis sur la trajectoire relationnelle vie communautaire. Ça prend dur. Et c'est pour ça que être dans une cellule, c'est absolument essentiel. Parce que c'est dans les petits groupes. Parce qu'un dimanche matin, avec autant de monde, c'est difficile de développer des véritables relations. Mais dans les petits groupes, dans les cellules, c'est là où on développe des relations. C'est là où on prie les uns pour les autres. C'est là où Dieu va transformer les vies. Et la troisième chose, et ça c'est la dernière chose que je veux dire, c'est que l'Église doit soigner l'accueil de nouvelles personnes. Mais là aussi, je suis en train de prêcher à la chorale, comme on dit, parce que... Alors, est-ce que vous savez, alors vous ne le savez pas, mais est-ce que vous savez, lorsque quelqu'un qui est nouveau, alors il y a probablement des gens ici qui sont nouveaux, alors je vais vous faire un petit... alors, vous savez combien de temps ça prend avant que les gens décident s'ils vont revenir pour une deuxième fois dans une église? Alors apparemment, on a fait des études, hein, on fait des études surtout. Hein. Mais apparemment, c'est 5 minutes. Donc, Nathan, ce n'est pas toi, parce qu'avant le premier chant, les gens ont déjà décidé. Avant que le pasteur prêche, la qualité, bien sûr, de la présidence de Nathan, ça a confirmé. Et la qualité de la musique, ça a confirmé. La prédication du pasteur, ça confirme. Mais les premières 5 minutes, c'est quoi? C'est la personne qui serre la main. C'est la qualité de faire des bisous. C'est le café, la qualité du café, hein. La qualité du café. Qualité du café, chers amis, c'est aussi important que le président de Nathan. Non, vous me comprenez. J'ai raconté hier car dans une des églises, ils ont fixé la règle de 5 minutes. Est-ce que vous connaissez la règle des 5 minutes? Alors, ceux qui étaient là hier matin, ils savent. Alors, c'est une idée géniale, parce que, alors, lui, il dit dans cette église, ils ont dit, l'accueil, c'est pas seulement ceux qui offrent le café. L'accueil, c'est pas seulement ceux qui sont à la porte pour serrer les mains. L'accueil, étant donné que nous voulons devenir une église chaleureuse, accueillante, relationnelle, ça veut dire que c'est l'affaire de tous. Alors, pour vous, les grands vétérans de l'église ici à Toulouse, l'ancienne de l'église Toulouse minime. Alors, que font les chrétiens à la fin du culte? Ah, je vous remercie pour cette... Alors, les chrétiens à la fin du culte, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent avec... leur copine, oh non, le frère et les soeurs, oui, c'est ça, oui. Et ceux qui viennent ici pour la première fois, qu'est-ce qu'ils font? Alors, la règle de 5 minutes, absolument géniale, c'est qu'on instaure dans l'église la règle de 5 minutes, où à partir de maintenant,
C'est formidable. Quand on visite l'église, on peut dire des choses absolument provocantes comme ça. C'est fou, c'est formidable. Et alors, à la fin du culte, les chrétiens n'ont pas le droit de parler avec leurs amis. Enfin, on n'a pas le droit, on se comprend. Comment tu t'appelles déjà?
Bertrand.
Donc Bertrand, après le culte, il va parler avec qui? Il parle avec personne à côté d'elle. De lui, pardon. Oula, côté de lui. Alors Bertrand, maintenant, parce qu'il a compris la règle de 5 minutes, il va aller directement trouver quelqu'un qui ne le connaît pas. Formidable. Parce qu'après 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Mais les amis de Bertrand sont toujours là. Et Bertrand veut causer avec eux jusqu'à quand il veut. Et donc l'idée, c'est qu'on développe dans l'ADN de l'Église un esprit d'accueil où nous voulons, notre souci c'est de faire en sorte que tout le monde puisse entrer dans la communauté. Et l'Église de Toulouse, métropole, va devenir une véritable Église relationnelle. Et ça marche. C'était lors de l'inauguration de notre Église. Alors, juste avant, on a briefé l'église à fond à ce sujet. Et après le culte, on était en train de boire le café, et je tombe dessus, et deux des sœurs de l'église, qui sont des chrétiennes lambda, sincères, mais jamais connues pour leur qualité d'accueil, viennent vers moi, et m'amènent un jeune couple. Dit voilà, nous avons mis en pratique les 5 minutes, voilà, des nouveaux. Donc j'ai discuté avec eux. Je les visite la semaine prochaine et ils ont cheminé, ils sont entrés dans une cellule et j'ai visité la jeune femme la semaine passée. Il dit alors je me fais baptiser. Et pourquoi? Mais c'était parce que quelqu'un a mis en pratique la règle des cinq minutes. C'est bien, hein? Parce qu'on est en train de développer une culture d'accueil et relationnel. Voilà, alors moi j'ai beaucoup dit, mais j'ai vraiment envie de communiquer ça, qu'il faut, les frères et les sœurs, que nous puissions avancer. Efforcez-vous. Et je suis bien conscient, parce que je suis pas né dans la pluie, que ce n'est pas simple. Et nous n'allons pas arriver tout seuls. Et si le Saint-Esprit lui-même ne change pas nos vies, on ne sera jamais une église relationnelle. Et de la même façon que le Saint-Esprit à la Pentecôte est venu sur l'apôtre Pierre, qui a prêché, qui a fait en sorte que l'Église et le Saint-Esprit est venu sur l'Église et l'Église est devenue relationnelle, moi je crois que ça doit se passer aujourd'hui. Amen. Amen.